Regardez cette belle histoire. N'oubliez pas que ça s'est vraiment passé. On ne sait pas ce qu'était cette femme, mais elle s'est trouvée au pied de Jésus. Jean chapitre 8, verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Oui, vous pouvez le dire. Amen. Est-ce que vous réalisez ce que cette femme a pu vivre ce jour-là ? Est-ce que vous réalisez la misère de la religion à côté de la bénédiction de la grâce ? D'un côté, la religion qui essaye de culpabiliser, qui essaye de tuer, qui essaye d'éloigner les gens de Dieu. Et de l'autre, la grâce du Seigneur qui va dire à une femme, « Je ne te condamne pas non plus. » Bon, ça serait un homme qui le dise, un homme super humaniste, un homme super gentil, « Je ne te condamne pas. » Mais ce n'est pas n'importe qui a dit ça. C'est le Seigneur Jésus qui a dit à une femme, « Je ne te condamne pas. » Et cette parole, vous devriez pouvoir l'entendre aussi. Dans le plus profond de votre cœur, je ne te condamne pas non plus. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas c'est pas une parole des plus merveilleuses qu'un homme puisse entendre sur la terre ? Je ne te condamne pas. Dans la bouche du Seigneur Jésus. Vous avez vu cette mentalité de la religion, ces pharisiens qui se sont approchés de Jésus pour l'éprouver, cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Tiens, c'est bizarre qu'il n'y ait que la femme. Vous voyez, ce machisme. Ça existait déjà, le machisme, vous voyez ? Parce que franchement, s'ils avaient été droits, ils auraient amené les deux. Oui ou non ? Et voyez un peu cette tournure d'esprit, ces gens qui, en fin de compte, je ne sais pas s'ils s'en fichaient de cette femme ou s'ils voulaient coincer Jésus. Ces gens-là, ces pharisiens, cette femme, il y a longtemps qu'ils sont morts. Où sont-ils ? J'espère que cette femme a tenu jusqu'au bout. Et qu'elle est auprès du Seigneur aujourd'hui. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que lorsque on entre dans une église, c'est parce que le Seigneur veut nous aider à recevoir la liberté. Vous avez entendu les témoignages, les uns plus beaux que les autres. Je ne sais pas où vous en êtes. Je me souviens du premier jour où Sylvie est venue. Je me rappelle parce que j'avais fait une prédication sur l'apostasie et j'avoue que c'était un peu raide. Et pourtant, cette femme, elle a été bouleversée par la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur, il sait parler à un cœur. Et voilà, il a parlé à Gabriel, il a parlé à Cédric, il a parlé à Caroline, à Pierre, à Sylvie. Mais vous, est-ce que vous voulez que Dieu vous parle ? Est-ce que vous voulez avoir la grâce sur la terre d'être confronté à une parole ? C'est une parole, comme ce centenier l'a dit un jour, qui avait tout compris, malgré le fait qu'il n'était pas encore converti. Quand il a dit à Jésus, mais dis un mot. Et ton serviteur sera guéri. Peut-être que vous avez besoin que d'une parole cet après-midi. Vous avez déjà entendu de beaux cantiques, vous avez entendu franchement de beaux témoignages, vous avez vu la présentation d'un enfant, combien on perçoit que Dieu veut bénir. Mais vous, qu'avez-vous entendu de la part du Seigneur? Est-ce que c'est de la religion complètement dépassée? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte dans notre ciel que de technologie, de pointe? Qu'est-ce qu'il nous raconte de ce Jésus qui est mort sur le bois de la croix? Eh bien, dans 3 semaines, à peu près, dans 3 semaines, on va dans toutes les églises du monde fêter la venue de Jésus-Christ. Toutes les églises du monde. Des milliards de gens vont aller à la messe de minuit. Je ne suis pas en train de jeter la pierre, ce n'est pas du tout mon objectif, justement. Mais des millions de gens vont aller dans des églises, ils vont fêter la naissance de Jésus. Mais la naissance de Jésus, c'est une chose. C'est beau de fêter la naissance de Jésus, mais on ne peut pas fêter la naissance de Jésus sans parler de la mort de Jésus. Et pour vous, la crucifixion, c'est quoi la crucifixion? Parce que vous avez entendu dans tous les témoignages que ce qui nous amène à la vie éternelle, ce n'est pas la religion. Vous n'avez pas entendu, oh, j'étais catholique et maintenant je suis évangélique. Moi, je ne veux pas entendre ça d'ailleurs, parce que ça ne correspond à rien. Mais j'étais dans les ténèbres et aujourd'hui, je suis dans la lumière. C'est quoi pour vous la crucifixion de Jésus-Christ? Est-ce que c'est une histoire du passé, avec tout ce qu'on a pu dire autour et tout ce qu'on va encore dire dans quelques jours dans les magazines, même religieux? C'est quoi la crucifixion de Jésus-Christ? La crucifixion de Jésus-Christ, c'est quoi pour vous? C'est quoi pour vous? Parce que si vous allez au ciel, vous irez grâce à la mort de Jésus-Christ. Vous n'irez pas au ciel, comme le disait Pierre, en pensant que faisant du bien, en soignant les épaules des clients, vous allez au ciel. Non, vous n'irez pas au ciel parce que vous ferez des œuvres. Vous irez au ciel parce que vous céderez devant la croix. Et je souhaite que tous ici, qui entendez cet après-midi la parole de Dieu, vous entendrez dans votre cœur cette parole que Jésus a dite à cette femme, « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Je voudrais que vous sortiez tous en disant, moi aussi, cette parole, elle était pour moi. Dieu ne me condamne pas. L'adultère, ça méritait la lapidation. Vous savez, on mérite tous la mort, oui ou non? Il y a quelqu'un ici qui peut aller au ciel sans Jésus? Levez-vous, votre témoignage m'intéresse beaucoup. Mais le Seigneur, on pourrait tous nous amener tous devant le Seigneur. Mais regarde-le à lui, il a fait ci, il a fait ça, ou il a menti, ou il a manqué d'amour. Est-ce que vous avez respecté les 10 commandements? Personne. Mais moi, quand je lis cette histoire, et que je vois que le Seigneur de l'univers, parce que Jésus, ce n'est pas le petit Jésus, il n'existe pas le petit Jésus. Jésus, c'est le Seigneur de l'univers. Il est descendu du ciel, il nous a aimés, il a prouvé son amour. Quand vous avez entendu le témoignage de Sylvie, elle ne cherchait même pas Dieu, elle était toute étonnée d'ailleurs d'être là en train de témoigner, tellement elle a été attirée comme le fer est attiré par les mains vers la grâce de Dieu. Ce n'est pas une preuve de l'amour de Dieu ça? Cette femme, quand elle a été prise en plein flagrant délit d'adultère, elle savait que c'était fini, c'est fini. C'était fini pour elle. Elle savait qu'elle allait être lapidée. Ça devait être terrible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des angoisses qu'elle a pu vivre, cette femme. Elle allait être lapidée. Elle allait être présentée à Jésus. Avait-elle entendu parler de lui? J'en sais rien. Comment s'appelait-elle? J'en sais rien. Mais une chose est sûre, il faut que vous compreniez que quand vous entrez dans une église où on prêche la parole de Dieu, vous n'allez pas être confronté à la lapidation. Vous devez être confronté à la grâce, à la miséricorde et au pardon du Seigneur. Quand on s'approche de Dieu, c'est parce qu'on a besoin de grâce, de pardon, de miséricorde. Et vous qui dites que vous n'avez pas besoin de Dieu, vous savez tous très bien que vous avez besoin de Jésus-Christ. Combien de gens qui me disaient, moi je suis athée, le jour de leur baptême, ils disaient, oui, on dit qu'on est athée, parce qu'on nous a dit, parce que mon père était athée, alors j'étais athée. Mais un jour, le Seigneur s'est présenté devant moi. Quelle grâce, la religion, elle va vous enfoncer. C'est peut-être pour ça que vous êtes écœuré de la religion. « Ah, ne me faites pas entrer dans une église. Moi, je ne veux pas entendre parler le curé. Je ne veux pas entendre parler le pasteur. Hein? » Comment les gens sont contre la religion? C'est vrai, oui. Mais c'est normal. Mais ils ont raison, en plus. Mais vous ne pourrez jamais être contre la grâce de Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu, vous devrez faire la même expérience que cette femme, voir les gens accusés dans leur conscience. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quelques minutes avant, elle pensait qu'elle allait mourir, lapidée. Et là, tout d'un coup, elle entend le Dieu des cieux lui parler. Ça devait être une histoire merveilleuse. J'en profite pour dire que vous avez vu ce qu'a fait Jésus quand ces hommes-là s'approchaient pour l'éprouver à lui. Il nous est dit que Jésus s'est baissé et qu'il a écrit par terre. le nom de nos 5 néophytes a été inscrit dans les cieux. Vous le croyez? Vous le croyez, ça, que le nom de Sylvie a été écrit dans le ciel? Est-ce que c'est vrai, ça, ou est-ce que c'est une blague? Est-ce que vous vous rendez compte? Votre nom est écrit dans le ciel, dans un livre. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne suis pas tout à fait sûr que c'était la même histoire qui était en train de se passer par rapport à ces religieux. Vous avez vu? Parce que là aussi, Jésus est en train d'écrire. Et j'aimerais vous lire un texte avec vous. Avec moi, s'il vous plaît. Regardez dans Jérémie, au chapitre 17. Moi, un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que Jésus écrivait? Ça vous est pas, vous n'êtes pas posé la question? Vous vous êtes pas posé la question, mais qu'est-ce que Jésus devait écrire? Ça vous interroge pas, vous? Moi, la première fois, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit? Regardez avec moi dans Jérémie, au chapitre 17. Il y a une explication, en tous les cas. J'aurais pas voulu être à la place de ces pharisiens. Jérémie 17. Alors, verset 13. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, regarde bien la suite. Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Voyez, ceux qui ont leur nom inscrit sur la terre, quelle misère! Ceux qui ont leur nom écrit dans les cieux. Et j'espère que vous allez sortir de ce lieu de culte en disant, moi je veux que mon nom soit inscrit dans les cieux. Je veux que Jésus soit mon avocat lorsque je passerai devant le Père. Je veux avoir cette paix, cette assurance dans mes luttes, dans mes combats, qu'importe. Je veux marcher avec le Seigneur. Parce que quand vous réaliserez, en lisant les évangiles, ce qu'est la crucifixion, ne serait-ce que 1% de la crucifixion. Nous, on voit la souffrance de Jésus physique, mais je pense qu'on est loin de s'imaginer la souffrance intérieure dans son âme. Ce que Jésus a subi, comment on l'a maltraité, comment on l'a promené de chez Caïphe à Hérode, de Hérode à Pilate, comment on s'est moqué de lui. Je me souviens, quand je me suis converti, j'avais entendu une femme qui pleurait dans l'église, ça m'avait choqué même. Elle était là, mais ils t'ont arraché la barbe, ils t'ont arraché la barbe. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Et quelques jours après, en lisant le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 50, je crois, 52 ou 51, il est dit qu'il n'a rien dit, qu'on lui a arraché la barbe. C'est écrit ou c'est pas écrit? Pourquoi il a accepté ça? Il a accepté là d'être maltraité, humilié, défiguré. C'est écrit qu'il a été défiguré. Vous savez ce que ça veut dire, hein? On parlait à table des mots que l'on ne comprend pas. Défiguré, ça veut dire que la personne, elle est tellement, tellement balafrée qu'on détourne le visage. On ne peut pas la regarder. Jésus a été défiguré. Il n'a rien dit. Pourquoi? Pour que Sylvie, Pierre, Caroline, Cédric, Gabriel aillent au ciel. La bonté de Dieu, l'amour du Seigneur, la crucifixion, là, pantelant sur une croix, alors qu'il a dit à Pierre, mais ne sais-tu pas que je pourrais invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant même 72 000 anges pour le défendre. Et il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il a été couronné d'épines. Vous savez ce qu'on lui a fait quand on l'a couronné d'épines? Qu'est-ce qu'on a fait quelques secondes après? On lui a tapé sur la tête. Oui. On s'est moqué de lui, il n'a rien dit. Alors vous pouvez dire, si Dieu m'aimait, si Dieu aimait. Vous savez, une des choses qui s'est passée dans le prétoire, c'est qu'on l'a déshabillé pour le flageller. Je termine avec cette pensée, parce qu'elle est assez forte pour amener quelqu'un à réfléchir. Ils l'ont déshabillé. Si vous regardez dans les écrits d'histoire, comment crucifier les gens, comment on les lapidait, comment on les fouettait, parce que la Bible est très concise, même si c'est clair, c'est rien à côté de ce qui s'est vraiment passé. Vous savez, on l'a déshabillé presque entièrement. On l'a fouetté. Et vous savez, quand je pense à ce texte, qu'on l'a déshabillé, je pense comment aujourd'hui on fait la même chose. Parler de l'amour de Dieu. Oh, si Dieu nous aimait, il ne se passerait pas ça ici. Si Dieu était juste, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. Mais vous croyez que c'est Dieu qui fait ça? C'est le diable qui fait ça. On l'a dépouillé. On l'a déshabillé. J'espère que vous ne faites pas partie de cette catégorie de gens. Parce que si vous faites partie de cette catégorie de gens, je vous condamne pas. Mais ça se finira mal pour vous. Parce que ce que Dieu veut, c'est vous sauver. Et pour vous sauver, il faut que vous lisiez l'Évangile. Et que cette parole que cette femme a entendue, vous l'entendiez aussi. Je ne te condamne pas non plus. Cette femme, quand elle a dû entendre ça. Et tout le monde était parti en plus, il n'y avait que Jésus. Ce n'était pas une bénédiction ça. Ça n'a pas été comme une espèce de cascade d'eau fraîche qui est tombée sur cette femme. C'est ça le Seigneur Jésus. C'est ça la grâce de Dieu. Il ne me condamne pas, moi qui levais le poing, moi qui blasphème, moi qui prends le nom du Seigneur en vain, il ne me condamne pas. Votre nom, le Seigneur va-t-il l'écrire sur la poussière de la terre ou un ange va-t-il l'écrire dans les cieux? C'est vous qui choisissez. Ne faites pas comme un jour quelqu'un me disait « Oh, si Dieu veut que j'aille au ciel, ben qu'il choisisse à ma place. » J'ai dit « Écoutez, Dieu a déjà choisi. » Lorsque Jésus est mort sur le bois de la croix, il a choisi pour vous la vie éternelle. Il a donné sa vie. Voilà, les 2h30 sont finies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire comme Sylvie, Pierre, Caroline? Oh, c'est pas ça mal, il y a des combats. Il y a des combats pour venir à Dieu, pour passer des ténèbres à la lumière. Vous savez, il y a des naissances. La Bible compare la nouvelle vie à une nouvelle naissance. Il y a des naissances, c'est pas facile. Moi, j'ai cru que le jour de la naissance de ma fille Esther, j'ai cru que ma femme allait mourir, sérieusement. Il y a des naissances douloureuses. Mais mes frères et sœurs, Dieu, il sait ce qu'il fait. Cet après-midi, il savait que vous viendriez dans ce lieu de culte. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on soit peut-être comme cette femme bénie. Il a une parole pour moi, une parole de liberté. Il ne me condamne pas avec tout ce que j'ai fait jusqu'à 55 ans, jusqu'à 38, 39. Il ne me condamne pas, mais c'est pas rafraîchissant. Alors, est-ce qu'on pourrait fermer les yeux quelques instants? Je vais demander aux musiciens de venir. Ce sont des moments, ce sont des rendez-vous qu'on appelle des rendez-vous divins. Oui, Sylvie a bien fait, Pierre a bien fait, ils ont tous bien fait. Vous croyez qu'ils ont bien fait de donner leur cœur à Jésus? Si on leur avait dit il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, un jour tu témoigneras de mon amour sur la croix, ils auraient dit oui, bien sûr, bien sûr. Dieu sait ce qu'il fait. Cet après-midi, je ne sais pas où vous en êtes, il y a des enfants, il y a des ados, il y a peut-être quelqu'un de malade, il y a peut-être quelqu'un de tourmenté, peut-être quelqu'un de fatigué, mais fatigué. Est-ce que Dieu peut s'approcher de vous cet après-midi et vous dire « Je vais te bénir, je vais te bénir ». Tu vois, la religion te condamne, les gens te condamnent, tout te condamne, mais moi je suis là pour te bénir. J'ai donné ma vie au calvaire pour te sauver. Vous entendez? Saisissez cette occasion. Ne vous amusez pas avec l'éternité. Ne vous amusez pas avec votre âme. Un jour, elle vous sera redemandée. C'est pas du chantage. C'est ce que Dieu demande au prédicateur, de vous dire « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Vous savez ce qu'on va faire? On va rester dans le recueillement. On va chanter un dernier cantique. Pendant ce cantique, il y a peut-être quelqu'un qui dit « Mais moi, je veux faire l'expérience de ces bien-aimés. Moi aussi, j'ai besoin de paix. J'ai besoin de pardon. J'en ai marre d'avoir peur. » Oui, ce dernier verset, Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous. Personne n'est mis à l'écart. Personne. Personne, cet après-midi encore. Tous, et je vous donnerai du repos. » Oui, je ne te condamne pas. Écoute, mon frère. Écoute, mon ami. Écoutez, les jeunes. Vous qui venez pour la première fois, entendez la parole de Dieu à cause du calvaire. Le Seigneur ne vous condamne pas. Mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Donnez-lui votre vie. Que Dieu vous bénisse.